Bonjour chers auditeurs, je vous retrouve avec un plaisir véritablement décuplé aujourd'hui parce que cela fait 4 mois que je ne suis pas venue dans les studios de Radio Courtoisie. Comme vous le savez, en décembre, j'ai eu un problème de santé. En janvier, rappelez-vous, le 7, c'était le jour de la neige, tout était bloqué. Ensuite, Radio Courtoisie qui fait des grands travaux, des travaux titanesques, et je dois dire, c'est assez joli. La décoration, c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui en filmé.
Eh bien, c'est un plaisir de vous retrouver, Evelyne. C'est vrai que ça faisait longtemps que nous nous
étions. Mais très longtemps. Et puis, je découvre, c'est tout bleu dur, gris perle et blanc. C'est très joli, c'est
high-tech,
voilà. Absolument. Et nous aurons plus de plages pour les enregistrements, donc c'est très bien. Alors, je suis vraiment, vraiment ravie, chers auditeurs, de vous retrouver. Et il faut aussi que nous disions un mot, Eric, pour les nouveaux horaires. Parce que, comme vous l'avez remarqué, l'émission est toujours rediffusée le soir à minuit. En revanche, pas le lendemain, mais le troisième samedi qui suit l'enregistrement direct. Ce qui nous pousse, Eric.
Alors, au samedi 21 mars à 15h30, concernant l'émission d'aujourd'hui.
Donc de 15h30 à 17h.
Voilà. Et donc ce soir à 0h.
D'accord. Ça c'est inchangé.
C'est inchangé.
Alors, aujourd'hui, nous allons parler du Canada et j'ai pour cela un invité, mais l'invité nous a fait savoir qu'il aurait 5 minutes de retard, donc je vais un petit peu commencer sans lui. Alors donc, il s'agit du Canada et comme vous le savez, il y a des frictions entre le Canada et le grand voisin, les États-Unis. Et je suppose que Paul Thompson va essayer de défendre Carney, le socialiste Carney, et moi, bien entendu, je vais défendre Trump. Et parce qu'il y a des responsabilités là-dedans que, surtout en Europe, on occulte complètement. Et donc, le Canada est en fait un pays socialiste, c'est triste à dire, à part la province d'Alberta. C'est un pays socialiste comme l'est en ce moment l'Australie et comme l'est l'Angleterre sous Starmer. Donc, c'est quand même dramatique de penser que les trois quarts de l'anglosphère sont pris par le socialisme. Et quand je dis socialisme, je veux dire le même genre de socialisme que celui que nous subissons de l'Union européenne et de la plupart des dirigeants européens. Alors, l'an dernier, on se rappelle, il y avait les élections, c'est pour ça que là nous sommes à près d'un an de Carney. Le socialiste Mark Carney a donc été élu. Il avait fait une campagne sur la peur. Vraiment une campagne de peur sur l'ogre Trump à côté qui allait venir et qui allait mettre la main sur le Canada. Donc, un an après, qu'est-ce qu'il en est? Nous allons voir ça avec notre invité. Et alors, les frictions demeurent, et je commence par ce qui est rigolo, c'est que, comme vous avez vu, le Canada a été battu, mais enfin bon, une excellente équipe quand même de hockey canadien. Ah, voici notre invité qui arrive. Puis-je avoir, s'il vous plaît, Paul Thompson, la feuille où il y a cette citation rigolote sur le hockey. Donc, Trump avait dit, puisqu'il y a cette espèce de petite guéguerre entre le Canada et les États-Unis, Trump avait dit « Moi, je ne me déplacerai à Milan que si l'équipe de hockey masculine gagne. » Alors, il ne s'est pas déplacé, mais en revanche, il a invité à son discours de l'État de l'Union, le 24 février dernier, il a invité l'équipe gagnante de hockey sur glace, qui a gagné l'or grâce au but marqué par un jeune homme qui s'appelle Hugh Smith. Comment ? Le jeune Américain qui a gagné la médaille d'or.
Je ne sais plus.
Non, Jack Hughes, voilà, son nom me revient. Et le pauvre, il a perdu ses deux dents. Paul Thompson, vous devez, s'il vous plaît, parler et je vais vous présenter tout de suite. Je termine avec ceci parce que c'est amusant. L'an dernier, avant de quitter son poste, Trudeau avait dit « Jamais l'Amérique n'aura notre pays et jamais elle n'aura nos Jeux » en parlant du hockey sur glace qui est véritablement emblématique du Canada. Et là, il y a un sénateur américain qui a envoyé un petit texte à Trudeau et qui a dit « On a eu vos Jeux ». Est-ce que ça veut dire qu'on aura ensuite votre pays? On ne sait pas. Alors, je vais présenter mon invité. Mon invité, c'est Paul Thompson. Vous le connaissez. Paul Thompson, vous êtes canadien d'origine, mais vous êtes européen maintenant, français. Donc, vous êtes franco-canadien, on peut dire ça quand même.
On peut, oui.
Et vous êtes juriste?
Oui.
Vous devez parler bien là-dedans, s'il vous plaît. Voilà. Vous êtes également filmé, Paul Thompson, pour la première fois.
Ah bon, dis donc, il fallait me le...
Voilà. Et donc, nous...
Vous le préciser.
Vous êtes juriste spécialisé dans le droit international. Enfin,
oui, on peut dire
oui,
ça.
On peut dire ça. Donc,
droit financier, surtout.
Voilà. Et alors, vous êtes conservateur, encore que très modéré, je pense, mais vous êtes tout de même conservateur et vous êtes là en train de défendre quelqu'un qui est un véritable socialiste, mondialiste, qui est Carney. Et pourquoi cela? Parce que les menaces, enfin, à mon avis, ce n'était pas des menaces, c'était véritablement... C'était plus amusant qu'effrayant quand Trump disait que le Canada devrait bien devenir américain, blablabla. Eh bien donc, votre fibre canadienne n'est pas morte, puisque là, vous défendez donc Carney et les Canadiens. Qui, j'étais en train d'expliquer en vous attendant, a été élu un petit peu grâce à la peur contre l'ogre Trump l'an dernier. C'est bien ça?
Tout à fait, oui. Très clairement même.
Voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il en est un an après? C'est le sujet de notre émission. Et alors donc, je voulais parler de ce qui était amusant d'abord. Alors, on a parlé donc de cette médaille de hockey. Et revenons à cette peur d'être absorbé par les États-Unis. Qu'est-ce qu'il en est du Groenland? Parce que Trump n'a plus jamais parlé de ça pour le Canada. En revanche, il y a des petits... On commence par ce qui est le moins grave et on va vers le plus grave. Et je vous ai remis un plan ici. Qu'est-ce qu'il en est de l'atmosphère au Canada maintenant? Est-ce que cette peur stupide de l'an dernier, franchement, cet épouvantail qui avait été lancé, est-ce que ça subsiste? Est-ce qu'ils ont peur maintenant que Trump acquiert le Groenland? Parce que pour le Groenland, là, il y revient, il revient à charge un petit peu plusieurs fois, disant que non, un bail de 99 ans, c'est pas bon, ça suffit pas, il suffit de voir ce que les Anglais font aux îles Chagos. Il faut acheter, il faut acquérir le Groenland pour quand même se défendre de la menace russe et chinoise, qui sont de plus en plus pressantes. Donc, quel est l'état des Canadiens en ce moment vis-à-vis de cette acquisition? Parce que si Trump arrivait à acquérir le Groenland, il serait complètement entouré et en même temps protégé par les États-Unis. Quelle est l'atmosphère maintenant au Canada?
Je pense qu'en ce qui concerne le Groenland, les Canadiens partagent le point de vue de la quasi-totalité des Européens. L'exception de vous-même, peut-être.
Ah oui,
à savoir que c'est une menace qui est à la fois irrecevable et très dangereuse et qui ne saurait être justifiée par des considérations de type l'ogre russe, le l'ogre chinois. Donc, mais au Canada, le sentiment à ce sujet... sans doute encore plus vif qu'en Europe, parce que le Canada se sent menacé encore aujourd'hui. Et donc, c'est normal qu'elle...
Menacé de quoi? Juste d'annexion, pure et simple?
Par exemple, et puis par les menaces, les pressions américaines en tout genre. Donc... On va parler après sur les questions de commerce international, mais là aussi c'est quelque chose qui pèse très lourd quand même. Donc il y a une certaine inquiétude encore aujourd'hui, ça c'est clair.
Et est-ce qu'il y a un regret d'avoir mal voté l'an dernier, d'avoir voté pour ce socialiste qui, on va le voir un petit peu au cours de notre émission, en fait n'a résolu aucun problème?
J'ai essayé ce matin de trouver les derniers sondages et malheureusement, je n'ai pas réussi à le faire. Ce que j'ai en tête, c'est que...
Non, c'est rien.
C'est que Carney n'est pas descendu au plus bas dans les sondages. Mais la situation est assez complexe au Canada. Vous avez le... Au Parlement, il y a une minorité. Il n'a pas la partie libérale, son parti, n'a pas la majorité des sièges. Donc,
est-ce que ça bride ces mouvements?
Mais oui, quand même, parce que c'est comme en France. Enfin, c'est pas aussi bloqué qu'en France, parce que il y a un parti plus à gauche du Parti libéral qui soutient le Parti libéral souvent. Mais il ne peut pas faire ce qu'il veut à cause de cette situation de gouvernement minoritaire.
C'est quoi ce qu'il voudrait, entre autres?
Le programme de Carney, c'est de... Je voudrais dire clairement que je ne partage pas du tout votre appréciation de lui en disant qu'il est un socialiste. Il est vrai qu'il appartient à une sorte d'élite libérale internationale. Ça, c'est...
Complètement.
C'est vrai.
L'élite mondialiste...
Il ne le contesterait pas lui-même, j'imagine.
L'élite mondialiste est, par définition, socialiste, quelque part. Ce n'est pas le vieux socialisme des années 30, mais c'est une nouvelle forme de socialisme. C'est un néo-marxisme culturel.
Oui, il y a des éléments néo-marxistes avec le wokisme, etc.
Et ben voilà.
Ça, c'est vrai. Mais lui, honnêtement, est aux antipodes de son prédécesseur, Justin Trudeau, qui, lui, Trudeau, était un véritable... wokiste.
Avec les côtés ridicules.
Oui, absolument. Et il avait même le côté nihiliste, on peut dire. Il avait un sorte de mépris pour les autres. Par exemple, quand il est allé en Inde, il a emporté toute sa famille, tout le monde. Il a habillé tous les membres de sa famille, et lui-même compris, en indien, ce qui a horripilé ses hôtes. Donc, ça prouve qu'il n'a pas pris la température. C'est juste un petit exemple.
Alors, Carney est plus fin, je suis d'accord avec vous. Il est moins ouvertement woke, mais par-dessous, c'est la même chose. Et je voulais dire une seule chose de bonne de lui. Je dirais plus de bien de Carney pendant le reste de l'émission. Une seule chose, c'est qu'à l'occasion des frappes américaines sur l'Iran, et je recommande en toute modestie mon dernier papier qui est paru hier et dans les quatre vérités et dangereuses, c'est pas une guerre que les Américains déclarent à l'Iran, c'est Trump essaye de mettre fin à la guerre que l'Iran a déclarée à l'Occident en 1979. Et donc Carney a été un des plus fins, puisqu'il a, d'abord il partage je crois l'avis de Trump là-dessus, je sais pas s'il y a eu des attentats terroristes financés par l'Iran au Canada aussi, mais nous en Europe, nous en avons eu dans les années 80, nous en avons eu à Paris. Galerie Lafayette, Librairie Gibert, Gare de Lyon, d'autres endroits célèbres de la capitale. Donc, les gens, là, une fois encore, je ne sais pas comment c'est présenté dans les médias français, mais il faut remettre les choses à l'endroit. Donc, pour en revenir à Carney, il a été bien pour ça. Vous êtes d'accord, là, avec lui ou pas?
Personnellement...
Il a salué en tout l'opération.
Oui, c'est vrai, c'est ce qu'il a fait, tout à fait.
C'est ce qu'il a dit par devant, en tout cas. Bon, au contraire des Européens qui font la chochotte et qui parlent de droit international. Donc, ce que je voulais aussi... Alors, on termine avec les choses amusantes. Il y a une chose amusante qui, pour montrer qu'il y a quand même des
Trump
tensions...
Trump devrait peut-être bombarder Madrid également, parce que les Espagnols sont d'une impertinence insupportable, donc je pense
qu'il devrait éliminer
le Premier ministre, pourquoi pas le roi aussi.
Il n'a pas parlé de ça.
Il a dit que la seule contrainte pour lui, c'est sa moralité personnelle, rien d'autre ne compte à ses yeux. Honnêtement, je ne trouve pas que ce soit... souhaitable comme approche de la politique internationale.
Le premier ministre espagnol, qui lui est un socialiste alors grand teint, non seulement critique Trump sur tout, mais ne paye pas son dû à l'OTAN et vient d'interdire que les aéroports espagnols puissent servir de base. Oui. Bon, donc si c'est ça un allié, je suis désolée, mais c'est Trump qui a raison, c'est pas l'espagnol.
Donc il devrait le bombarder.
Non, il n'a pas dit ça. Il a dit simplement que
l'Espagne mériterait une correction.
Il mériterait d'être sorti de l'OTAN, et je suis d'accord avec lui. Alors, revenons au Canada. Il y a cette question de pont sur la rivière, sur le fleuve, pardon. Quel lapsus de ma part, sur le fleuve Detroit.
Oui.
Hein, il n'y a pas que la ville de Détroit, il y a également le fleuve qui lui donne son nom. Et donc au-dessus de ce fleuve, il y a un pont qui, en ce moment, pose problème, puisqu'il devait être inauguré là, au printemps 2026, et que Trump met le holà tout à coup, parce que faut bien savoir que ce pont, c'est le résultat de tractations qui ont été décidées entre Trudeau, dont on vient de parler, et Obama, dont les auditeurs savent tout le mal que je pense, pas parce que j'aime pas sa personne, mais parce que tout pour le mal qu'il a fait aux États-Unis et à la civilisation occidentale. Donc c'était comme tout ce qu'Obama a fait, avec l'Iran notamment, son accord de 2015, c'était une négociation idiote, bâclée, avec des résultats calamiteux pour les États-Unis, où l'acier américain n'était pas employé. Donc Trump dit non, 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 il faut que les matériaux soient fournis à égale part, etc., ce genre de choses, avant que je consente à ce qu'on ouvre le pont. Où est-ce qu'on en est? Et alors en même temps, il y a un autre pont, pas plus loin, qui dit « Oui, mais moi, ce pont, c'est une famille qui possède un autre pont, qui dit « On ne voulait pas de ce pont du tout, parce que ça nous enlève notre... » Il possède un pont. C'est compliqué. Racontez-nous, Paul Thompson.
Je pense qu'il faut savoir que ce pont correspond à un projet bilatéral entre le Canada et les États-Unis et l'État de Michigan, qui est l'État concerné, a soutenu le projet et y a contribué financièrement à côté des Canadiens. Donc, il n'est pas le cas que c'est un projet que le Canada a imposé aux Américains. C'était un projet conjoint et qui servait à faciliter tout simplement le passage des milliers et milliers de poids lourds qui traversent la frontière entre le Canada et les États-Unis tous les jours. Il faut savoir que le commerce entre le Canada et les États-Unis est très important et cet endroit précis est l'endroit où il y a de loin le plus gros passage des marchandises. Donc il y a un enjeu tout simplement commercial et d'efficacité qui ne concerne pas l'un ou l'autre des deux pays, mais qui les concerne tous les deux. Donc, dire que le projet a été une sorte de manipulation canadienne aux dépens des Américains dans le principe me paraît inexact. En ce qui concerne le détail des négociations, combien de ciment proviendrait du Canada et combien des États-Unis, je n'ai pas les informations, donc je ne peux pas faire de commentaires là-dessus. Il est vrai que il y a déjà un pont qui s'appelle Ambassador Bridge qui appartient à une famille qui est proche des républicains et le patron de cette famille a eu une discussion avec le secrétaire du commerce dont le nom m'échappe toujours, Ludwig ou quelque chose comme ça.
C'est pas tout Edward Lutnick.
Lutnick, merci.
Et la famille qui possède le pont, je l'ai là, c'est la famille Moran.
Oui, exactement. Il s'est toujours opposé à ce pont, comme vous l'avez indiqué en introduction. Et les commentaires de Trump sont venus juste quelques jours après un entretien de ce monsieur avec monsieur Lutnick. Donc, on peut se demander s'il n'y a pas un lien de cause à effet. En tout cas, le pont est déjà construit, donc est-ce que l'idée est de le détruire et en construire un autre ?
Non, pas du tout. Vous dire ce que Trump a dit. Le gouvernement canadien expecte que moi, président des États-Unis, je leur permette de tirer avantage une fois encore des États-Unis. Je ne permettrai pas l'ouverture de ce pont jusqu'à ce que les États-Unis soient entièrement dédommagés pour tout ce que nous leur avons donné, c'est-à-dire aux Canadiens. Voilà, ce sont les arguments de Trump. Autrement dit, on n'a pas utilisé notre... voilà, c'est de l'acier canadien, et en même temps, par contre, et on ne tient pas compte de tout ce que l'Amérique a fourni là-dedans. Donc il veut que l'avantage soit réciproque et égal, et pas tout à l'avantage du Canada, comme c'était. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, Paul Thompson. C'est comme avec les Européens, les gens s'insurgent. Mais ce qu'ils ne savent pas, et s'ils creusent un petit peu, c'est pas trop difficile à trouver, l'Amérique a véritablement été une bonne poire pendant des décennies, et tout le monde s'est servi d'elle, commercialement et militairement. Et Carnet est dans la même situation que les Européens. Il a profité par NORAD, comme les Européens par l'OTAN. Il a profité de la protection américaine en donnant pratiquement rien en échange. Et également, il y a eu des tarifs douaniers préférentiels et pour l'Union européenne et pour le Canada au détriment des États-Unis. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Trump n'attaque pas les alliés. C'est lui qui dit que les alliés sont des alliés félons, dans une certaine mesure, parce que tout cela a été au détriment des États-Unis. Est-ce que vous contestez ?
Il y a deux niveaux. Si on regarde les 30 dernières années, vous avez raison, les États-Unis, soit se sont laissés rouler dans la farine, comme on dit, sur des questions tarifaires, par exemple, pour les tarifs pour les voitures américaines importées en Europe, étaient au moins le double des tarifs sur les voitures européennes importées par les Américains. Donc, on se demande pourquoi les Américains n'ont jamais accepté ça. Ça semble aberrant.
Parce qu'il y avait des présidents qui ne défendaient pas l'intérêt des États-Unis.
Oui, je pense que c'est juste. En ce qui concerne les dépenses en matière de défense, les Américains, le Canada, c'est vrai, pendant très longtemps, comme l'Allemagne, mais encore pire que les Allemands, je crois, profiter d'un sorte de statut de passager clandestin, comme on dit, c'est-à-dire qu'il ne paye pas sa part. Ça, c'est avéré par les chiffres, il ne peut même pas y avoir de débat là-dessus. Donc là, les Américains sont parfaitement légitimes, et Trump a demandé un effort supplémentaire, et ce n'est pas vraiment contesté aujourd'hui. Mais c'est vrai que les Américains peuvent dire que pendant longtemps, pendant même plusieurs décennies, ils ont payé plus que leur part. Mais ça ne justifie pas que le pont de Gordie Howe soit bloqué parce qu'il n'y a pas assez d'acier américain dans le pont. Donc il y a une certaine... c'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a une sorte de niveau général. Et puis, il y a des questions spécifiques qu'il faut regarder une par une selon les mérites des uns et des autres par rapport à chacune de ces questions.
Alors, ce pont-là que vous appelez Gordie Howe, faut savoir que c'est le nom, là encore, d'un célèbre joueur de hockey, mais cette fois-ci pas sur glace.
Si, hockey sur glace aussi.
Gordie Howe était une
grande vedette. Oui. C'était un Canadien d'origine, mais qui
de
était une grande vedette. De l'équipe de Détroit.
Ah oui, d'accord, très
donc,
bien.
Donc, il faut savoir que de manière... En temps normaux, les relations entre le Canada et les Américains sont marquées de manière générale d'une sorte de cordialité très, très nette, avec des points de désaccord ici et là, dans un couple, mais de façon générale, de très bons rapports avec un bon niveau d'attente. Et aujourd'hui, la situation est un peu empoisonnée. J'espère que ça ne va pas durer éternellement.
Pour en terminer avec ce pont, il y a aussi une petite anecdote. Là, c'est que l'ambassadeur des États-Unis au Canada, qui s'appelle Pete Hoekstra, qui est du Michigan, l'État qui jouxte l'Ontario, c'est
oui.
bien ça, eh bien, a dit que, en fait, le président Trump veut que l'appartenance de ce pont soit à égalité entre le Canada et les États-Unis. Ça semble quand même acceptable comme demande, non ? Et apparemment, s'il y a ces dissensions-là encore pour ce pont, c'est parce que ce n'était pas bien établi jusqu'à présent. Donc, à mon avis, ça va s'arranger, ils vont trouver un accord.
Encore une fois, je ne connais pas tous les détails des structures de propriété, mais ce que j'ai lu, c'est que ce pont était un projet commun entre l'État de Michigan et le gouvernement fédéral canadien, et j'imagine que la province de l'Ontario était impliquée aussi. Et donc, ce n'est pas quelque chose que le Canada a imposé au Michigan. Donc,
non, bien sûr, mais ça, c'est...
Aujourd'hui, si on dit qu'il faut revenir sur un contrat qui a été conclu il y a 15 ans, normalement, on ne le fait pas s'il a été mal négocié par les Américains. La leçon, c'est que la prochaine fois, ils doivent mieux négocier pour défendre leurs intérêts. Pas si on dit chaque fois que si votre locataire dit « je n'aime pas mon bail, donc je veux le modifier unilatéralement ici et maintenant », vous direz non.
Vous
on a
fait,
signé le
que...
bail, il dure jusqu'à son terme et après on verra.
Je ne sais pas si je peux être d'accord avec ça, parce qu'un bail, c'est une chose, mais des intérêts commerciaux entre deux pays, c'en est une autre. Et Trump fait bien remarquer à quel point, sans le dire comme moi je le dis crûment, à quel point Obama, comme négociateur, était absolument nul, puisqu'il n'avait même pas considéré la question des droits de douane, parce qu'il va y avoir des droits de douane pour ce pont. Donc, c'est tout ça que Trump veut réviser. Il a quand même le droit, non, si un accord calamiteux a été fait et que son pays en souffre, il a quand même le droit de revenir dessus.
Enfin, il a le... S'il y a un... Typiquement, il y aurait un contrat avec une longue durée pour une œuvre comme ça, comme pour des autoroutes, des concessions d'autoroutes en France. Et ça ne dure pas 6 mois, ça dure 30 ans parce qu'il y a des investissements très lourds. Et celui qui consentit l'investissement doit savoir en amont quelles seront les bases économiques de son investissement. Donc, normalement, on n'interrompt pas un contrat avant son terme. C'est tout ce que je peux dire. S'il y a une situation tellement... calamiteuse qu'il faut faire une exception à la règle, ça, on peut toujours tenter, mais normalement, ça ne se fait pas.
Alors, entre-temps, une question pertinente nous est arrivée d'une dame, JMF, non, un monsieur. En écoutant votre émission et la qualification de votre invité en droit international, une question. Comment peut-on qualifier un droit d'international alors que les derniers événements montrent que ce droit n'existe plus ? Je suis tout à fait d'accord avec cet auteur, cet éditeur, et moi dans mon dernier article, je dis justement que le droit international est en fait une pure fiction désormais. Mais Paul Thompson, et cher auditeur, et je pense que vous allez être d'accord avec moi, Paul Thompson, quand on dit spécialisé en droit international, ça ne concerne pas que des traités de ce type, ça concerne aussi souvent... justement, la voirie, la marine, c'est ça aussi le droit international. C'est pas que politique. On est bien
et
d'accord.
Et aussi le monde des finances. Je travaille pour un grand groupe français et quand nous négocions des contrats avec des banques, il y a parfois une trentaine de banques de l'autre côté en tant que contrepartie. Il peut s'agir de et parmi cette trentaine, il y aura des banques japonaises, américaines, anglaises, françaises. Allemande, etc., etc., etc.
Bien sûr.
Donc, ça, c'est un exemple d'un contrat international. Effectivement, il faudrait, pour bien faire, être plus précis dans la terminologie, il y a la notion de droit public international qui concerne les rapports entre États. Et c'est donc très différent par rapport aux affaires internationales dans le sens financier et économique, où il y a un contrat, une loi spécifique, que ce soit le droit français, le droit anglais ou autre, qui s'applique au contrat en question. Donc, mais en ce qui concerne, donc, ce sont deux choses bien distinctes. Les rapports économiques internationaux et les rapports entre les pays. En ce qui concerne le droit international au sens Nations Unies, conventions internationales, tous les experts sont d'accord pour dire que ce n'est pas un système de droit comme le code civil en France ou le common law en Angleterre. C'est très différent. Il n'y a pas d'instance suprême qui est apte à faire respecter ces soi-disant normes. Donc déjà, c'est une différence absolument fondamentale. Néanmoins, est-ce que ça veut dire que c'est inutile d'avoir des notions, des règles? Je pense que non, mais il faut savoir quelle est la nature de ces règles. En Europe, après les guerres de religion, un sorte de... Et il s'est développé la notion de concert des nations et certaines normes se sont développées qui avaient quand même leur utilité. Donc, je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et donc, en ce qui concerne l'Iran, par exemple, brièvement, plusieurs personnes, des conseillers de Starmer, lui ont dit... Cette attaque n'est pas conforme au droit international. Il se référait au traité qui a fondé les Nations Unies, qui était une grande œuvre des États-Unis, qui précisait qu'on n'a pas le droit d'attaquer un autre pays, sauf si c'est pour légitime défense et d'autres questions.
Ça l'était, puisque Trump affirme, et je suis d'accord avec lui, que tout montrait qu'une attaque de l'Iran était imminente avec des missiles balistiques qui ne peuvent pas atteindre les États-Unis, mais qui auraient pu atteindre l'Europe et qui, en tout cas, pouvaient atteindre toutes les bases américaines au Moyen-Orient. Et l'échec des négociations qui ont eu lieu jusqu'au dernier moment avant samedi dernier, et le 28 février, l'échec des négociations ne laissait plus de doute. L'Iran était véritablement une humeur très agressive vis-à-vis des États-Unis. Ils voulaient montrer que ce n'était pas parce qu'ils avaient été en partie détruits sur le nucléaire qu'ils étaient privés de force. Donc, alors, je suis contente que vous ayez développé ces points du droit international. Il y a deux questions qui sont arrivées depuis. Est-ce qu'on peut résumer, Paul, en disant qu'en fait, le droit international est tout à fait valable quand il s'agit d'affaires, en fait, privées, pas publiques, c'est-à-dire que des sociétés maritimes ou que sais-je, enfin des sociétés avec des intérêts mondiaux, soient par exemple en désaccord sur tel ou tel point. Là, le droit international, et c'est là où vous intervenez, vous, c'est là où le droit international a toute sa légitimité. En revanche, vous avez bien dit, le droit international politique, géopolitique, représenté par l'ONU, est une farce aujourd'hui. Il est né d'un bon sentiment, mais on a très vite vu que, en fait, l'ONU aujourd'hui n'est plus du tout ce qu'elle était censée être. Et moi, j'attends le jour où Trump va s'en retirer et leur dire « Vous débarrassez, vous allez vous installer ailleurs, vous occupez tout un quartier de New York qui serait mieux utilisé à autre chose. Vous nous prenez, on vous donne quand même 80% de vos revenus. » Et tout ça pourquoi ? Pour faire une politique qui est contre l'Occident et qui est tout à l'avantage des briques et des tyrans. Donc, le droit international ne vaut plus rien sur le plan géopolitique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Je n'irai pas jusque-là, mais comme je l'ai déjà dit, c'est quelque chose qui... La notion de droit, on pourrait dire que c'est un peu malpropre, parce que ça reste très politique. Mais c'est normal, c'est dans l'ordre des choses, et donc, il ne faut pas s'en offusquer, il faut juste reconnaître une réalité géopolitique, effectivement, comme vous avez dit. En ce qui concerne les Nations Unies...
Cet organisme est complètement discrédité. Il s'est discrédité
Bon, la perfection n'a pas de ce monde, et les Nations Unies l'illustrent particulièrement.
C'est une litote.
mais est-ce que ça veut dire qu'il est complètement inutile, qu'il mérite d'être... écarté
oui,
complètement,
parce que...
ça, je n'en suis pas convaincu, parce que ça sert quand même à ce que les gens puissent se parler. Et ça, c'est déjà quelque chose d'important.
Des parlotes. En fait, leur mission, c'était d'empêcher les guerres.
C'est important de
C'était d'empêcher les guerres. Ben, ils n'en ont empêché aucune. Franchement, aucune. Leur bilan est zéro.
Vous ne savez pas, depuis 1949, c'était l'année de fondation.
Oui, mais c'est pas eux qui ont arrêté quoi que ce soit.
Empêché des guerres, ça... Je ne pense pas que vous soyez...
Et les casques bleus de l'ONU, moi je me rappelle quand j'étais petite, on parlait des casques bleus de l'ONU, attention, hein, qu'il y allait... Bon, ils ont fait peur à personne. Et on n'en parle même plus aujourd'hui, on ne sait même plus s'ils existent. Alors, il y a deux messages qui sont arrivés qui me disent que j'ai rien compris, enfin ça c'est ce que ça veut dire, que les Américains sont en fait... il y en a un qui est cynique, qui me dit oui, les Américains n'ont jamais été intéressés, on le sait bien, ce sont des philanthropes, hein, pensez à l'adage qui... trop veut prouver. Bon, très bien, cher auditeur, on a passé votre message. Et quelqu'un d'autre revient, lui, à l'Indochine. Ah ben, on les a vus en Indochine, hein, et en Algérie, ils se sont mis du côté des Vietnamiens et du FLN. Bon, je ne sais pas si c'est vrai. Je sais, moi, simplement que Eisenhower, qui était président à l'époque, pensait que l'Amérique avait assez donné en hommes et en argent, et que toute l'Europe étant endettée, à l'époque, il y avait autre chose à faire que pour les États-Unis s'engager dans des conflits lointains, qui ne leur regardaient pas vraiment. Voilà, c'est tout ce que je peux répondre à cet auditeur. Alors, avançons avec notre émission. On termine avec une dernière chose qui est plutôt rigolote dans la guéguerre entre les... C'est la province d'Alberta. Alors, on sait que la province d'Alberta, c'est quand même la... Je crois que c'est elle qui est la plus riche de toutes les provinces canadiennes.
Peut-être à côté de l'Ontario, en termes de PIB par habitant, ça ne m'étonnerait pas.
C'est qui produit le plus de richesses, notamment de pétrole.
Ça ne m'étonnerait pas, je n'ai pas les derniers chiffres.
Et donc, les habitants d'Alberta, eux, bah, ils trouveraient pas trop mal, enfin certains, en tout cas un tiers quand même.
Oui, c'est
un tiers
quand pas même, négligeable, ça c'est sûr.
Ne serait pas opposé à être plutôt sous le joug de l'Amérique que sous celui de Toronto. Et donc, il y a des mouvements séparatistes. Alors, madame le gouverneur, je ne veux pas dire la gouverneuse ou la gouverneure, madame Danielle Smith, oui, qui est le gouverneur de l'Ontario, dit il est hors de question que nous devenions américains, mais si la population demande un référendum, je ne pourrais pas le lui refuser. Donc, on verra ce que les Albertains, on dit les Albertains. Décideront. Et pendant les, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu, pendant les émeutes que la gauche, l'ultra-gauche folle et woke faisait contre la police des frontières qui était venue à Minneapolis pour sortir les criminels de prison et les déporter, eh bien toute la gauche était là, il y a eu deux tués, mais c'est bien de leur faute, ils s'opposaient aux forces de police et ça a été des accidents. Ils n'ont pas réussi à en faire un troisième... George Floyd, c'est ce qu'ils auraient voulu, c'est ce que la gauche américaine cherche, la guerre civile, elle n'y est pas arrivée. Trump a réussi, là, sans mobiliser la garde nationale, à les dompter. Mais pendant ces événements, qui étaient quand même angoissants, eh bien, beaucoup d'Américains et des gens d'Alberta disaient, mais on pourrait tout simplement faire l'échange, on donne le Minnesota au Canada et nous, on prend la province d'Alberta. C'est rigolo, non?
Je pense que ce ne serait pas une bonne affaire sur le plan économique pour le Canada, parce qu'effectivement l'Alberta est une province riche avec des ressources pétrolières et gazières très importantes, y compris à l'échelle internationale. Le Canada est dans les premières dizaines des exportateurs de produits de pétrole. Et donc, non, ça ne nous paraît pas être très indiqué comme solution au problème. Il faudra que les Américains se débattent avec le Minnesota. Le Minnesota a toujours été de gauche, très à gauche. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une particularité de l'État depuis...
Toujours, je ne sais pas, mais depuis, oui, en tout cas les années 60.
Humphrey,
oui.
Il était de Minnesota,
Humphrey, oui,
je
ça,
crois.
Ça
il était
60.
Très à gauche.
Oui, oui, oui. Encore que pas assez au goût de la gauche folle américaine. Voilà. Donc, alors avant d'arriver aux choses plus sérieuses, est-ce que vous pouvez nous préciser, Paul Thompson, quelque chose sur la Constitution canadienne? Elle a été écrite en 1867, c'est bien cela,
oui,
par le Parlement britannique.
Oui.
C'est vous qui m'aviez appris cela.
Oui, oui.
Donc,
oui.
Historiquement, est-ce que ça place le Canada définitivement plus dans le camp du Royaume-Uni que de celui des États-Unis? Parce qu'en fait, les Canadiens sont les descendants de ceux qui n'ont pas voulu la Révolution américaine et qui sont allés au Canada, au Nord,
tout à fait,
justement.
Oui. Les loyalistes, comme on dit.
Les loyalistes, voilà, c'est
oui,
ça. Mais donc...
Enfin, en termes de structure politique, le Canada a un système qui a été hérité directement du Royaume-Uni, sauf qu'il y a la dimension fédérale qui est une différence de taille, mais... Le système parlementaire est vraiment le système britannique. Les règles électorales sont très voisines. Même les deux plus grands partis politiques au Canada, c'est le Parti conservateur et le Parti libéral, étaient des sortes d'extensions à l'origine de leur des partis correspondants au Royaume-Uni.
Leurs homologues anglais, oui.
Et donc, ça c'est une chose. En termes de culture politique aussi, le système parlementaire, jusqu'à une date relativement récente, prévoyait ce qu'on appelle la suprématie du Parlement. C'est-à-dire que le Parlement pouvait... On disait, le Parlement peut décider de tout, sauf de déclarer qu'un homme est une femme et inversement. Mais depuis, on a progressé, donc...
Ah, mais pas le Canada. L'Amérique a progressé, mais pas l'Europe et pas le Canada. En Europe, tenez, si vous me permettez une anecdote. Pendant les Jeux Olympiques, justement, moi, je regardais les patineurs sur glace parce que vraiment, ils m'épataient. Et il y avait deux commentatrices françaises qui se permettaient et de favoriser les patineurs français et une patineuse américaine qui s'appelle Amber... J'ai oublié son nom de famille, Welsh. Enfin bref, une patineuse qui... Et alors, oh, elle n'a pas gagné, quel dommage. Parce que c'est une autre américaine qui s'appelle Alicia Liu, d'origine chinoise et américaine, d'une maman américaine qu'elle ne connaît pas d'ailleurs, puisque c'est une fécondation in vitro. Et cette petite jeune fille était éblouissante. Bon, alors au lieu de saluer ses compétences extraordinaires, sa grâce, la facilité, eh bien, les deux commentatrices françaises étaient bloquées sur celle qui avait perdu. Bon, elle était très bonne aussi, mais moins bonne, flûte, il faut le reconnaître. Oui, parce que c'est très dommage quand même qu'elle n'ait pas gagné, parce que vous comprenez, elle a tellement fait pour le mouvement LGBTQ. Et puis quand même, aujourd'hui, elle avait ses règles. C'est quand même normal, hein. Il faut qu'on en parle désormais.
Ah bon,
vous vous rendez compte? Donc, quand on dit que le wokisme est uniquement un produit américain, bon, d'accord, ça s'est développé plus là-bas que chez nous, mais qui c'est qui aujourd'hui fait un mouvement, qui fait vraiment des politiques pour enrayer cela? C'est Trump. Et en France, rien du tout. On laisse faire. Et ce genre de réflexion, à mon avis, irrecevable, faite sur une chaîne de télévision, je trouve que c'est quand même grave pour la France.
Je pense que Trump, effectivement... doit être loué pour son action dans ce domaine qui se révèle d'une efficacité certaine. Par exemple, récemment, la banque Goldman Sachs, qui est une des banques les plus prestigieuses et les plus puissantes parmi les banques américaines, a annoncé avoir éliminé des considérations de type woke pour la constitution de son conseil d'administration, ce qui est très important.
C'est-à-dire les politiques ESG, environnement, social, gouvernance,
non, c'est imposées
par
question
l'administration
Biden. Diversité.
Oui.
C'était les
deux.
Exactement.
Ouais.
Et donc ça c'est très significatif.
Tout à fait.
Mais beaucoup de grands groupes américains ont fait des démarches dans le même sens, ce qui est...
Et parce qu'ils n'osaient pas avant. Ils auraient bien voulu, mais ils auraient été pénalisés. Donc avec Trump,
je ne sais pas s'ils auraient voulu ou pas, mais de toute façon, ils ont changé la ligne. Et donc, il y a une inversion de tendance dont on peut se... Personnellement, j'estime qu'on peut s'en féliciter
beaucoup. Tout à fait. Et ça, c'est tout à fait, comme vous le dites, dans le monde des affaires, des grosses sociétés. C'est également aux États-Unis, dans le monde de l'éducation. Trump a vraiment signé des décrets, des ordres exécutifs qui interdisent des politiques aberrantes pratiquées par les enseignants, et également dans les hôpitaux. Halte aux opérations sur mineurs pour leur imposer un changement de sexe. Enfin, c'est quand même incroyable.
Et dans l'armée, c'est très important.
Tout à fait. Bon, eh ben, on n'a pas vu Carnet, le voisin Carnet au Canada, faire la même chose. Et nous, en Europe, eh ben, on se garde bien de... Bref, on imite tout ce qui n'est pas bon de l'Amérique, mais comme d'habitude, ce qui est bon, on ne l'imite pas. Ou alors, il faudra 20 ans
ça
ou 30
viendra
ans.
Peut-être. Ça viendra peut-être.
Alors, est-ce qu'on va passer aux choses qui sont quand même plus sérieuses? Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on écoute votre chanteur national, Gordon Lightfoot?
Ben oui.
Gordon Lightfoot a sa statue d'ailleurs à Toronto.
Oui.
Alors les Européens ne le connaissent pas du tout. Et moi j'avoue que cette chanson que nous allons passer qui s'appelle The Wreck ou The Wreckage of the Edmund Fitzgerald, ce vaisseau qui donc a sombré avec tous les hommes à bord dans le lac Ontario.
Le lac supérieur, pardon.
Et ça c'était ses contemporains.
Je pense que c'était dans les années 30, peut-être.
Voilà, donc c'est ça. Il y a pas encore 100 ans, voilà. Mais enfin bon, quand vous étiez petit, vous avez pu en entendre parler. Personnes devaient en parler beaucoup. Voilà. Et donc, cette chanson est véritablement culte pour les Canadiens. Moi, je la trouve très belle et les paroles sont magnifiques, mais elle est très longue. On va peut-être pas écouter tout, mais on va en tout cas commencer.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
The legend lives on from the Chippewa on down of the big lake they call Gitche-Gumee. The lake, it is said, never gives up her dead when the skies of November turn gloomy. With a load of iron ore, 26,000 tons more than the Edmund Fitzgerald weighed empty. That good ship and true was a bone to be chewed when the gales of November came early. The ship was the pride of the American side, coming back from some mill in Wisconsin. As the big freighters go, it was bigger than most, with a crew and good captain well seasoned. Concluding some terms with a couple of steel firms when they left fully loaded for Cleveland. Then later that night when the ship's bell rang, could it be the north wind they'd been feeling? The wind and the wires made a tattletale sound, and the wave broke over the railing. And every man knew, as the captain did too, 'twas the witch of November come stealing. The dawn came late and the breakfast had to wait when the gales of November came slashing. When afternoon came, it was freezing rain in the face of a hurricane west wind. When supper time came, the old cook came on deck saying, "Fellas, it's too rough to feed you." At 7 p.m. a main hatchway gave in. He said, "Fellas, it's been good to know you." The captain wired in, he had water coming in, and the good ship and crew was in peril. And later that night when his lights went out of sight, came the wreck of the Edmund Fitzgerald.
Chers auditeurs, vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal du Nouveau Monde dirigé par Evelyne Josselin, qui reçoit aujourd'hui Monsieur Paul Thompson, qui est juriste franco-canadien, pour parler du Canada. Le thème de cette émission est le Canada de Macarney, près d'un an après son arrivée.
Tout à fait. Alors, nous avons parlé de la guéguerre entre le Canada et les États-Unis, mais les choses se corsent quand même à cause de l'action de Mark Carney. Alors, c'est bien joli de dire « Ah, mais le pauvre, il n'a pas le choix, il est bien obligé, puisque Trump a haussé les tarifs douaniers, il est bien obligé de se tourner vers d'autres marchés. » Sauf que tout l'Occident, quand même, a dû marcher au pas de loi pendant le Covid, on se rappelle, à cause du virus chinois. Il y a également le fait que la Chine a sa politique de BRI, c'est-à-dire Belt and Road Initiative, c'est-à-dire d'encerclement, là, un véritable encerclement là, de la planète. Elle achète des ports dans les capitales, enfin en Europe. Elle ficelle les ceintures, tout. Enfin, c'est incroyable. La Chine, c'est pas une guerre ouverte, mais c'est une guerre froide qui est carrément lancée au monde entier pour imposer la domination chinoise à plus ou moins long terme. Et eux, ils ont tout le temps devant eux. Ils ont un dictateur à leur... Donc, ils ont qu'à attendre que Trump soit plus là en 28 et ils feront ce qu'ils voudront. C'est la mentalité des dictateurs. Et bien entendu, nous, les démocraties en face, nous pesons pas lourd. Et là, au lieu de se découpler de la Chine, comme tous les Occidentaux auraient dû faire après le Covid, puisque le Covid a été en fait le clarion call, comme on dit ça en français, le, c'est le son du clairon qui aurait dû alerter tout le monde. Eh bien, au lieu de se découpler de la Chine, on voit Starmer en Angleterre. Alors, on peut, ça lui ressemble bien. Merz en Allemagne, qui est allé lui aussi ramper devant les Chinois la semaine dernière. Et puis Carnet, qui a conclu un marché, je crois, avec la Chine. Et Trump a dit, mais c'est inacceptable. Alors, il n'était pas content des tarifs douaniers contre le Canada, qui pourtant était modéré. Eh bien, il va voir ce qu'il va voir maintenant. C'est inacceptable parce qu'il y a trop de... Je vous lis un petit extrait d'un article là qui résume tout. Alors, je traduis à vue. Bon, le Canada est tombé sous l'influence à la fois de l'islam et du Parti communiste chinois, tandis que de puissants cartels criminels alignés avec la Chine ont une prise ferme sur Mexico. Autrement dit, tout ce monde des cartels est associé avec la Chine et le Parti communiste chinois, et ces gens-là s'infiltrent donc aux États-Unis, au Canada aussi, et apparemment la frontière entre le Canada et les États-Unis est presque aussi dangereuse pour les États-Unis que l'était la frontière sud que Trump a complètement verrouillée. Et là, apparemment, des infiltrations, en plus des espions chinois, peuvent entrer. Ça fait même avant Trump, enfin avant le deuxième mandat de Trump, j'en entendais parler, je le lisais dans les chroniques, il y a beaucoup d'infiltrations qui viennent aussi par la frontière nord. Et donc, le Canada laisse faire. Alors, qui a la faute dans cette petite guerre entre les États-Unis et le Canada? Comment est-ce que vous allez défendre Carnet sur ce point, Paul Thompson?
Mark Carney est le Premier ministre du Canada, donc il essaie de défendre les intérêts légitimes du Canada. Et ça, c'est quelque chose que Trump, certainement, et J.D. Vance et les autres membres de l'équipe de Trump considéraient comme parfaitement légitime. Ils disent toujours que le concept American First, c'est pas seulement pour les États-Unis. Ils pensent que les gouvernements des autres pays devraient aussi essayer de défendre les intérêts de leur pays respectif.
À condition que ce soit dans l'intérêt des pays occidentaux. On est alliés ou on ne l'est pas? On est dans l'Alliance Atlantique ou on ne l'est pas? C'est ça quand même qui compte.
Je répète, les Trump et les J.D. Vance et d'autres ont dit tous les pays du monde, les gouvernements de tous les pays du monde devraient défendre les intérêts de leurs pays respectifs.
J'ai bien compris, j'avais bien entendu, mais je vous répète, même si ce n'est pas dit, implicitement, ça voulait dire à l'intérieur quand même de la préférence pour l'Alliance Atlantique.
Je ne pense pas que c'était implicite dans le,
dans
le message. Je pense que ça s'appliquait vraiment au monde entier. Mais en ce qui concerne, c'est ça votre question, je pense, comment apprécier cette dynamique en ce qui concerne le commerce entre les États-Unis et le Canada et la réaction du Canada, parce qu'il s'agit bien d'une réaction, en essayant de trouver d'autres partenaires. Quand, dans ma jeunesse...
Excusez-moi, il a trouvé un autre partenaire, il a conclu aussi, Carnet, un contrat avec l'Inde. Rien à dire. Là, ça va très, très bien.
Et aussi avec l'Union européenne. Il s'efforce d'approfondir
les
liens économiques avec l'Union européenne.
Il faut quand même se rappeler tout ce que la Chine nous a apporté de négatif.
Les États-Unis et la Chine ont des rapports économiques très approfondis dans le domaine financier, scientifique, pharmaceutique, etc. Donc, par exemple, de grandes sociétés pharmaceutiques américaines ont commencé à nouer des contrats leur permettant de profiter des domaines où les groupes pharmaceutiques chinois sont en avance et dans le domaine de la finance, des banques comme JP Morgan sont très présents en Chine et malgré les tensions qui existent et que chacun connaît, il ne s'agit pas de les nier, ils entendent y rester parce qu'ils adorent les Chinois, mais parce que c'est un gros marché
Vous avez raison, mais néanmoins, un découplage s'est amorcé entre la Chine et les États-Unis qu'on ne voit pas imitée par les Européens et par le Canada. Et le Canada et les Européens, pour moi, c'est absolument la même chose. C'est le même esprit, c'est le même... la même.
Il y a eu des... dans certains domaines, le Royaume-Uni, par exemple, mais aussi l'Allemagne, je pense, et d'autres pays européens ont bien voulu suivre les invitations amicales des Américains à évacuer Huawei, par exemple, de leur système de télécommunications national. Donc ça, c'est un exemple où les Européens ont suivi les demandes des Américains, parce que les Américains ont dit que ce serait très dangereux parce que ça permettrait de capter des informations confidentielles et donc il pourrait avoir une dimension sécuritaire et cet argument a été suivi. Donc ce n'est pas le cas que les pays européens ne font rien pour se protéger contre certains risques d'une surexposition à la Chine. Mais il faut relativiser les choses. L'Allemagne, par exemple, je suis d'assez près la politique allemande et aussi la vie économique. Il y avait dans ce voyage de Merz la semaine dernière effectivement une grande délégation de patrons d'entreprises et l'Allemagne n'entend pas réduire à zéro ses échanges avec la Chine, mais en même temps, le discours de l'Allemagne a beaucoup changé depuis l'époque de Merkel et maintenant, il y a l'idée non pas d'un decoupling radical, mais d'une gestion intelligente des rapports pour se prémunir contre des risques. Donc, ça va un peu dans le même sens, oui. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience de risque et l'idée qu'il faut gérer ça intelligemment et ne pas simplement dire que tout ce qui est chinois est merveilleux, ce que les Allemands avaient tendance à dire il y a 15 ou 20 ans, par exemple, ou même il y a 10 ans peut-être.
Alors j'ai un article là qui dit, il revient sur le marché de carnet avec la Chine, alors... le voilà engagé dans un nouveau partenariat stratégique, dit-il, avec la Chine, pour se prémunir, comme vous dites, Paul Thompson, d'États-Unis agressifs. Bon, il n'empêche que, pendant sa visite en Chine, le Premier ministre Carney n'a absolument pas parlé des exactions du Parti communiste chinois contre sa propre population, mais aussi il y a des otages occidentaux qui sont retenus à Pékin et Carney n'en a pas parlé du tout. Donc, piètre négociateur de ce point de vue-là. Autrement dit, ce serait aplati carrément devant le président Xi.
Il en a peut-être parlé en
privé.
En privé, mais c'est ce que... C'est là aussi l'approche de la France, parfois. Oui.
Mais la France n'est pas un exemple. Hein. Sous la France de Macron,
Il est parfois plus efficace de faire comme ça plutôt que de chercher des manchettes de journaux en simplement provoquant une réaction de rejet de la part de l'interlocuteur. C'est propre de la diplomatie de s'efforcer d'être diplomate.
Oui, la diplomatie peut être silencieuse,
oui, exactement.
Vis-à-vis des médias.
Ça ne veut pas dire que rien ne se passe.
Bien sûr.
Alors, vous pouvez... Carney, à Davos, c'est lui montré agressif vis-à-vis des États-Unis, à son tour, parce que là, il était dans son élément, il était chez lui à Davos. À Davos, c'est tout à fait son milieu, là, il était comme un poisson dans l'eau, il était véritablement dans le bunker des mondialistes, c'est-à-dire cette élite néo-marxiste qui se croit très très supérieur à nous autres microbes et qui pense qu'ils savent mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et donc, Carney à Davos s'est révélé exactement ce qu'il est, c'est-à-dire un financier en fait. Il a toute la froideur du financier mondial qui véritablement est en rupture totale avec le commun des mortels, avec les peuples. Et donc, dans ce monde mondial où lui se sent très, très, très bien, eh bien, il s'est vanté que le Canada... le Canada, j'avais là... Canada, pour sa part, oui, il s'est vanté donc de son du pacte, enfin du marché qu'il avait conclu avec la Chine, voilà. Et il a dit l'hégémonie américaine en particulier. Il parle d'hégémonie américaine. L'hégémonie en particulier nous a aidé à avoir des voies maritimes ouvertes, un système financier stable, une sécurité collective appréciable. Mais il y a des limites à cela. Nous avons participé à tous ces rites, etc. Mais nous devons maintenant, nous sommes maintenant au milieu d'une rupture, sinon une transition. Voilà. Donc, il a affiché haut et fort son désir d'effectuer une transition hors de l'accord, autrement dit de l'Alliance Atlantique.
Mais voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un regret. Il ne s'en est pas félicité, au contraire. C'était présenté comme quelque chose de catastrophique. C'est comme en Allemagne. En Allemagne, la tendance générale en Allemagne est d'être pro-américain. Pas le cas de tout le monde, bien sûr,
mais dans
la classe politique, ouais. Dans les grands médias, c'est la tendance générale. Et je pense au sein de la population aussi.
Ça, c'était au XXe siècle, mais ça fait
non,
depuis...
Non, même aujourd'hui aussi. Et donc, aujourd'hui, en Allemagne, on ne parle du Canada, mais c'est une analogie intéressante, des gens comme Merz qui a travaillé pour des grands groupes financiers américain, il est franchement pro-américain, mais il est consterné par certains éléments de la politique de Trump et il essaie de préserver la relation atlantique. C'est très clair que c'est son souhait, c'est ce qu'il essaie de faire, mais en même temps en réagissant thème par thème pour tenir compte de l'action des Américains. Sur l'Ukraine, par exemple, les Américains se mobilisent sur le plan militaire davantage parce que les Américains financent moins. Ça ne veut pas dire qu'ils détestent les États-Unis, pas du tout. Et avec Carney, c'est pareil. Il ne disait pas « je suis absolument ravi de ce qui se passe ». Au contraire, personnellement, je pense que l'Europe, j'ai toujours pensé que l'Europe devrait être plus indépendante. J'ai toujours partagé la politique française de Gaulle et de Macron aujourd'hui, consistant à dire que l'Europe devrait être plus autonome. Et donc la France peut se féliciter de cette évolution parce que ça lui permet de faire avancer ses arguments, alors que jusqu'ici, la plupart des pays européens étaient très sceptiques devant la politique française consistant à promouvoir l'autonomie européenne. Mais s'agissant du Canada et de l'Allemagne, ils ne sont pas du tout heureux de cette évolution. C'est important de le savoir.
Mais quand
je pense.
Vous vivez au crochet de quelqu'un, c'est difficile d'avoir des prétentions.
Oui, il y a un problème d'équilibre entre quand vous avez une très grande puissance et d'autres.
Oui, mais
D'autres pays qui dépendent de sa protection, ça crée des rapports déséquilibrés structurellement, ça c'est vrai.
Alors, vous êtes un très bon avocat pour Mark Carney. Est-ce que vous allez le défendre aussi dans le reste? Parce que, bon, il est inquiétant quand même. L'islamisation de nos pays occidentaux a lieu absolument partout. Hein, partout en Europe, aux États-Unis aussi, malheureusement. On l'a vu avec des villes entières, des régions entières qui sont occupées par les Somaliens aux États-Unis, au Canada également. Je pense qu'en Australie, il y en a pas mal aussi, étant donné qu'il y a eu des attentats dernièrement qui l'ont prouvé. Enfin bref, l'islamisation est véritablement une force qui va et que personne, à part Trump là encore peut-être, qu'on ne cherche à arrêter. Et en tout cas, pas Carney au Canada, puisque... des questions nous parviennent. Pas Carney au Canada, puisque l'islamisation du Canada est un véritable problème. Et on l'a vu notamment avec une femme qui est le maire de Toronto, Madame comment s'appelle-t-elle? Elle a un nom chinois.
Elle n'a pas son nom en tête.
Maintenant, mais enfin, elle est...
Lee, peut-être, ou non?
Non, mais c'est Chuan, ou en France. Elle a un nom chinois.
Je vois de qui vous parlez.
Voilà. Et donc, mais ce n'est pas pour la Chine qu'elle fait de la publicité, c'est elle pour les Palestiniens. Elle était complètement pour les Palestiniens et contre Israël. Et donc, Et donc, elle a favorisé par ses positions politiques que personne ne lui demandait, elle a favorisé l'islamisation aussi, galopante quand même, de la province de Toronto et de la capitale de la province de Toronto. Donc, c'est quand même angoissant. Donc, il y a à la fois, on favorise l'infiltration chinoise, l'islamisation du pays, la wokisation du pays n'est pas enrayée. Et qu'est-ce que vous répondez à ça? Et après, il y a la question de l'euthanasie, qui quand même, le Canada est le pays le plus avancé là-dedans, et on va en parler après.
D'accord. Effectivement, ce sont des sujets distincts. Il faut savoir que le Canada a tout un système politique et organisation sociale très différent de la France. La France est un pays centralisé depuis très longtemps, déjà sous l'Ancien Régime, et ce phénomène a été encore accentué après la Révolution, et elle subsiste jusqu'à aujourd'hui. Au Canada, il y a eu, dès le départ, de l'organisation du pays après la conquête par les Anglais à la faveur de la guerre des Sept Ans au XVIIIe siècle, à une entente qui a été conclue entre les élites françaises là-bas et les Anglais. Et le marché, c'était vous gardez vous Français, vous gardez votre religion, vos lois, vos écoles, votre langue, votre culture. Nous occupons du commerce et de la politique internationale et du fait militaire. Et c'était malheureux pour la Nouvelle-France d'avoir que la France ne l'a pas perdu, défendu davantage, mais c'était un marché qui leur a permis quand même de conserver leur culture, leur langue, leurs institutions jusqu'à aujourd'hui. Chose qui n'est pas suffisamment appréciée en France. Vous avez des intellectuels comme Bock-Côté, qui est un nationaliste québécois, qui ne reconnaît pas que la situation du Canada français est très, très heureuse en réalité, à cause de ce que je viens de décrire. Ensuite, donc il y avait une acceptation d'une sorte de pluralité sociale, même légale, linguistique, religieuse. Et à l'époque, au XVIIIe siècle, ça ne coule absolument pas. À l'époque, en Angleterre, les catholiques étaient interdits d'université, interdits du Parlement, par exemple. Donc c'était vraiment quelque chose. Il y avait aussi un régime complètement à part pour des autochtones avec des traités. Pourquoi est-ce que je raconte tout ça? Parce que je pense que c'est pertinent pour répondre à votre question. Au Canada, il y a le sentiment que des gens, je me souviens que mes propres parents, qui étaient très patriotes, très pro-britanniques, la relation avec le Royaume-Uni était très importante, mais en même temps, respectueux des Néerlandais, des Chinois qui débarquaient dans le pays. C'était une autre culture, peut-être qu'elle n'est pas transposable en Europe. Et je pense que c'est ce qui explique. D'ailleurs, même il y avait un gag que des étudiants ont organisé dans la ville de Hamilton, à l'Ontario, qui est une ville ouvrière. Et il consistait à y aller en habillé comme des Arabes. Donc, ils étaient trois. Un était déguisé en arabe. Un deuxième devait provoquer le premier en disant « Pourquoi est-ce que vous êtes habillé comme ça? Nous sommes au Canada, ça ne va pas du tout. » Et un troisième qui observait. Et ce qui s'est passé, et donc il s'installait devant des arrêts de bus et il ouvrait un dialogue. Et ce qui s'est passé, c'est que des ouvriers blancs, anglo-saxons, ont littéralement tapé dans la gueule, pardonnez-moi l'expression, celui qui critiquait la personne qui était habillée en arabe parce que c'était considéré comme choquant. C'était un comportement choquant, antisocial, etc. Ce qui n'était pas prévu. C'est une petite anecdote, mais ça illustre un certain état d'esprit, une certaine approche de ces questions.
Je comprends. Et l'état d'esprit, oui, je le comprends, c'est louable. Sauf qu'à l'époque, ces étrangers-là ne présentaient aucun danger. Ce qui n'est pas, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
J'ai été frappé lors d'un voyage récent au Canada par le fait que deux chauffeurs de taxi musulmans se sont mis à louer le Canada sans aucune provocation de ma part.
Ah, mais on ne met pas tout le monde dans le même panier. Mais y a
je pense que parce qu'ils estiment qu'ils savent qu'ils ont le droit de vivre leur religion sans être inquiétés ou sans être dénoncés comme des salauds ou des mauvais citoyens. À cause de cela, et donc ils apprécient ce respect mutuel qui est possible. Alors qu'en France, on tape sur les musulmans sans arrêt, dans les médias que moi je lis en tout cas, ils sont comme le Figaro causeur, on tape sur les musulmans vraiment à longueur de journée. Et ça crée un climat extrêmement délétère.
Mais on ne tape pas sur tous les musulmans, on parle sur ceux qui sont agressifs.
Il n'y a jamais un article sur les bons musulmans. Il n'y a jamais lu un seul article dans le Figaro, le Causeur, sur des musulmans qui font quelque chose de bien. Donc, il y a un parti pris extrêmement négatif, je pense.
Peut-être que vous n'avez pas de bonnes lectures.
Peut-être.
Il y a une question amusante qui nous est arrivée, que je voulais moi-même poser.
Qui vient d'arriver, Monsieur Thompson, sur un sujet qui monopolise pas mal la presse en ce moment. La question est la suivante. Parle-t-on au Canada de l'abominable affaire Epstein? Les États-Unis ont encore rapporté cette affaire au Monde.
Oui, de les journaux. Je n'ai pas entendu parler de Canadiens qui étaient pris dans les raies de Epstein, mais je n'ai pas lu les 3 millions
de pages.
Donc je n'en sais pas plus, mais effectivement, c'est une affaire qui a des.
En tout cas.
Justement, je voudrais dire une chose, parce que par rapport à vos commentaires sur l'élite mondialiste, je pense que cette affaire qui est franchement sordide, néanmoins, mérite d'être connue, étudiée, etc. Parce que
c'est une des dérives du mondialisme.
Exactement. Ça montre un côté sombre qui habite au moins une partie, pas tout le monde, mais une partie de ces élites qui est vraiment...
Qui se croient tout permis.
Quasiment diabolique. Et ça montre, ils sont se concentrent au-dessus de tout. Donc, il faut que les gens sachent que ça existe. C'est important.
Tout à fait. J'en parle d'ailleurs dans mon livre La guerre culturelle. Cette gauche internationale a un côté satanique, diabolique, comme vous voulez dire, absolument. Alors, il y avait autre chose aussi sur le Canada qui est grave. C'est cette question d'euthanasie. C'est important pour nous Français, puisque je crois que ça va être voté, ou c'est déjà voté, c'est comme si, ou si c'est pas voté, ça va l'être. C'est comme l'avortement, c'est la même chose. Il y aura des dérives, on le sait. Et on le sait, comment on le sait par le Canada interposé. Au Canada, il faut quand même savoir, chers auditeurs, que MAID, M-A-I-D, c'est-à-dire medical... le droit de mourir, voilà, assisté, payé par la Sécu, enfin ce qui correspond à la Sécu au Canada, voilà. C'est bien joli, sauf que au Canada, on a ce qu'on n'a pas en France, on a un certain recul dans le temps, donc on a pu établir des statistiques, et 98% des personnes sollicitées par les euthanasistes sont tout de même des Blancs. Et ce ne sont pas que des Blancs âgés qui sont un poids lourd pour l'équivalent de la Sécurité sociale. Les offres, il y a même des appels.
Ce qui ne serait pas une justification pour les éliminer quand même.
C'est bien mon avis, mais je veux dire, non, mais les partisans de l'euthanasie, les plus cyniques, disent oui, mais ce sont des gens qui coûtent cher, et puis bon, ils sont en fin de vie, alors qu'ils vivent un an ou deux de plus ou de moins, autant les éthanasies. Il y a des gens qui raisonnent comme ça, malheureusement. Bon, eh bien,
sachant qu'ils arriveront peut-être à cette
limite. Ben voilà, aussi, oui, exactement. Exactement. Ben, eh bien, il y a Attali qui avait tout de même dit quand il avait lu. Lui, 75 ans, que 75 ans, c'était bien comme âge pour en finir. Hein. Bon, bah, commençons par lui, par exemple. Bon, bref, revenons à...
Il ne s'est pas porté volontaire encore?
Ben non, il aurait dû. Ah bon. Donc, au Canada, et je n'exagère pas, je l'ai lu dans plusieurs supports, et je lis quand même Mark Steen, qui n'est pas un juif, qui est un Canadien pur jus, et Conrad Black, qui est un lord anglais en plus. Et donc, ces gens-là ne sont pas des rigolos. Et s'ils disent que des Canadiens sont sollicités par les euthanasistes, des Canadiens jeunes, mais par exemple qui sont pauvres, qui se désolent de ne pas sortir de leur pauvreté, bon, bah, y a une solution, voyez-vous. Voilà. Et d'autres qui sont malheureux, ou qui, alors des, on en avait parlé, je crois, une fois avec vous, Paul Thompson, des jeunes soldats qui sont déboussolés.
Qui revient du service en Afghanistan, on leur a proposé comme récompense.
Exactement. Et ce qui est pire que tout, c'est qu'en plus, ils ne seront pas morts pour rien. C'est qu'on va prendre vos organes, qui ne sont pas des organes de vieilles personnes, mais des organes de gens jeunes en bonne santé. Donc, voilà le type de dérive auquel ce genre de loi peut mener. C'est tout.
Oui,
et on n'a pas vu Carnet s'interposer pour dire halte là, on est peut-être allé un peu loin. Donc quand vous disiez qu'il n'est pas aussi woke que Trudeau, certes en apparence, mais en fait dans la politique, c'est à peu près la même chose. Est-ce qu'il a résolu véritablement quelque chose depuis qu'il est arrivé?
Oui, il est beaucoup plus pragmatique et moins idéologique qu'on croirait à vous entendre. Dans le domaine de la réglementation environnementale, par exemple, il a laissé tomber des taxes qui étaient décriées par les conservateurs pendant longtemps comme étant anti-économiques. Il est défendu par Trudeau et les écolos. Rapidement, après être arrivé au pouvoir, il les a laissé tomber complètement. Et ça, c'était une rupture sur un point très débattu depuis des années au Canada. Donc, mais c'était pour stimuler l'économie canadienne. Donc, ça montre déjà qu'il a un côté pragmatique et non idéologique.
C'est un peu opposé, dites-vous, à l'hystérie écologiste.
Oui, absolument.
C'est une bonne chose.
En ce qui concerne... en ce qui concerne cette question de l'euthanasie, ce n'est pas quand même lui qui était aux manettes quand cette loi a été adoptée. Je pense que c'était...
Oui, mais il ne pourrait pas en sa qualité
de... Il est
là
depuis un an, je crois. Donc,
il ne pourrait pas en sa qualité de Premier ministre, quand même, de Premier ministre, pardon, sonner l'alerte, dire « nous avons une loi, qui est ce qu'elle est, mais il pourrait quand même peut-être... »
Non, je dis qu'il est là depuis... Non, vous avez raison, mais il est là depuis seulement un an. Il a beaucoup de sujets à traiter. Et donc, il faut choisir ses batailles, comme on dit. Donc, je ne sais pas s'il aborderait cette question. Et je suis mille fois d'accord avec vous que ça mériterait d'être abordé. J'ajouterais que j'assistais il y a plus de 20 ans à une sorte de congrès catho à Lourdes, de l'Action catholique indépendante, plus précisément. Et il y avait une session sur cette question à cette époque-là. C'était en 93-94. Et il y avait un médecin néerlandaise qui nous a dit que aux Pays-Bas, qui déjà à ce moment-là avaient des années d'expérience, qu'il y avait des abus absolument dans tous les sens, notamment dans les familles qui voulaient mettre la main sur le grappin plus rapidement. C'était absolument courant. Et donc, tout à fait connu dans les milieux médicaux. En tout cas, ce n'était pas tellement médiatisé comme phénomène, mais c'était bien établi. Donc ça, c'est... Donc, tout ça pour dire que je suis complètement d'accord avec vous. C'est côté sombre, mais je ne sais même pas si c'est le côté ou si c'est le cœur du sujet, est absolument effrayant. Et ceux qui promeuvent ces lois doivent être au courant. Donc, c'est pas très rassurant.
Il y a un autre problème, celui de la censure. Est-ce que le Canada, puisque le Canada, moi je ne fais pas de différence entre le Canada d'aujourd'hui avec l'Union européenne et puis Starmer en Angleterre, est-ce que le Canada lui aussi se livre à une censure étatique contre les médias, notamment le média de Elon Musk, X, et puis son, son encyclopédie Grok, hein, parce que les Européens sont acharnés contre Musk. On a fait à cette émission un spécial Musk au mois de septembre, n'est-ce pas? Et Musk a des côtés quand même à défendre chez lui, non, celui de donner la parole à des gens qui sont censurés. Je trouve ça formidable de sa part.
Oui, bien sûr.
Voilà. Et donc, est-ce que le Canada tombe également dans ce travers?
Je n'ai pas entendu dire qu'au Canada, on attaquait.
Il n'y a pas un office.
Comme l'Union européenne le fait.
Et Starmer aussi. Il n'y a pas un organisme de censure étatique établi. Parce qu'il y en a un en Angleterre.
Par ma connaissance, je n'ai pas étudié le sujet spécifiquement, mais je n'en ai pas entendu parler. Il y a des. Il y a une élite libérale au Canada et il y a un équivalent canadien du BBC, British Broadcasting Corporation, qui s'appelle le Radio-Canada en français. Et cette organisation Radio-Canada a les mêmes travers du BBC et que... les médias officiels français qui penchent à gauche très nettement. Ça existe au Canada aussi, mais il y a quand même des espaces de débat assez vifs. Le Parti conservateur est un parti important. Il a raté la dernière élection, mais au sein du Parti conservateur, les idées sont très différentes et ils sont défendus publiquement et assez vigoureusement. Donc, on ne peut pas dire qu'on est dans l'Albanie des années 50 en termes de liberté d'expression.
Alors, un dernier, avant la conclusion, un dernier problème grave dont souffre le Canada et que Carney apparemment n'a pas résolu, tout socialiste qui soit, entre guillemets, eh bien, c'est la question du logement. Beaucoup de jeunes, il me paraît que les prix des logements sont aberrants au Canada,
absolument,
notamment à Toronto.
Et que un peu partout.
Un peu partout, d'ailleurs. Voilà. C'est pire qu'aux États-Unis, puisque les États-Unis connaissent un petit peu le même problème. La question de affordability, de. Comment on dit ça en français
Accessibilité.
Accessibilité, oui, voilà, financière, on doit dire. Eh bien, c'est devenu un véritable problème. Il n'a rien fait. Il n'a rien réussi de ce côté-là.
Je pense qu'il essaie de s'attaquer au sujet. Vous m'avez passé, pour préparer cette émission, un excellent article sur la question que j'ai lu attentivement et qui soulève un problème structurel très gros, à savoir une surréglementation et une complexité de réglementation qui est au Canada particulièrement grave parce qu'il y a plusieurs niveaux de création de normes, niveau fédéral, provincial et même municipal, parce que les villes ont des responsabilités en matière de, je sais pas comment on dit ça en français, les plans d'urbanisation. Je pense que c'est ça,
le
plan d'urbanisation. Ça crée des coûts monumentaux. Ça existe en Europe aussi, ce genre de problème.
Ça existe aussi chez nous.
Chaque pays
avec
ses particularités, mais je sais qu'en Allemagne, il y a des projets immobiliers qui sont annulés parce que aussi les matières de construction.
Alors, réglementation, il faut bien comprendre que ça se traduit par taxes. Voilà.
Ce sont des
coûts artificiels.
Donc vous avez ça, oui. Vous prenez les produits d'isolation, par exemple. C'est une bonne chose d'avoir des produits d'isolation qui vous isolent effectivement contre le bruit, le chaleur, le froid, etc. Oui. En soi, c'est une excellente chose. Ensuite, vous avez les normes techniques. Alors si on...
Ils sont de plus en plus folles partout.
Oui, exactement. À partir d'un certain moment, ça augmente les coûts et le gain marginal en termes de confort n'est pas à la hauteur des surcoûts. Et donc, ça, c'est un problème qui existe au Canada. Et juste en termes de cette accessibilité, ce n'est pas deux ou trois villes, c'est toutes les villes, même de taille moyenne, attractives, on connaît le même problème.
Alors, Paul Thompson, il nous reste que quelques minutes. Il nous reste deux minutes. Est-ce qu'en deux minutes, vous pouvez conclure en nous disant quel est l'état du Canada aujourd'hui et quel est l'état de Carney lui-même? Est-ce qu'il est au moins... est-ce qu'il y a des chances d'arriver à le faire tomber? Est-ce que l'opposition est crédible?
C'est un système démocratique, donc parlementaire. Donc, il y a des joutes au Parlement tout le temps. Et le Parti conservateur, il y a d'autres partis qui sont vigoureux aussi au Canada, se battent pour être mieux entendus. Carney, personnellement, je suis dans une tendance plutôt conservatrice, donc je n'aurais pas voté pour lui aux dernières élections, mais je pense qu'il fait du bon travail dans une situation difficile, justement, qui n'est pas idéologue. Et qu'il essaie de s'attaquer vraiment au problème de façon pragmatique et concrète. Je pense vraiment que c'est sa démarche. Donc, est-ce qu'il sera apprécié par les Canadiens? C'est difficile à dire parce que les difficultés économiques sont considérables et peuvent encore s'aggraver à cause de ce conflit de commerce avec les États-Unis.
Merci Paul Thompson, merci pour votre éclairage.
Merci à Jean-Loup et à Benoît pour la
tout à fait,
le message
tout à
et
fait.
La réalisation.
Et nous vous retrouverons, je crois, le 1er avril, et ce n'est pas un poisson, véritablement, le 1er avril.
Vous nous en préparez un alors?
Oui, on va essayer d'en glisser un ou deux, on verra. Voilà, très bien, au revoir chers auditeurs, à très bientôt.
Vous venez d'entendre le Libre Journal du Nouveau Monde dirigé par Evelyne Jostin, assistée d'Éric, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mercredi 4 mars 2026 de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal. Commandez le CD-ROM pour le prix fonds de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.